Vous écoutez
RMC. RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Jean Litour.
On est de retour aux États-Unis. Il est 22h01 ici dans le New Jersey, 16h01 à Paris. On est toujours avec Souleymane Diawara, toujours avec Younes Belhanda, et on accueille en plus ici dans le studio le plus grand fan de Younes, Walid Acherchour. Salut Walid.
Salut Jean-Louis, salut à tous. Et pour le coup, j'ai envoyé un message à Younes pour lui dire qu'il faisait un début de Coupe du Monde incroyable.
Je me dis, c'est la révélation.
Et Soulé, la même chose. Franchement, on a une équipe de qualité. Je sais pas qui a construit cette équipe, peut-être Antoine Varnier, mais en tout cas, je voulais le féliciter.
Non, vraiment. C'est pas lui, c'est la direction.
Et j'ai supplié Antoine de venir faire une dernière heure avec Soulé et Younes. Donc si vous pouvez m'accepter dans votre débat foot.
C'est vrai que Younes, c'est plaisir.
C'est toi qui dois l'accepter.
J'apprends beaucoup à tes côtés aussi.
Merci Soulé.
Ah, c'est exceptionnel cette connexion.
C'est ce que je lui ai dit par message. En plus à Walid, je lui ai dit, je m'inspire beaucoup de toi parce que franchement, il est relâché quand il parle, il dit ce qu'il pense et c'est ce que j'aime moi.
C'est Roger Federer côté revers. On est relâché.
Je vous enverrai 2-3 autres noms d'inspiration quand même parce que je crois qu'il faut pas tout prendre chez Walid. Mais bon, bref.
Merci Jean-Louis en tout cas pour ta bienveillance.
C'est toujours important de redescendre un peu les gens. Voilà. Et rappelons qu'Antoine Varnier réussit tout ça pour pas cher, ce qui est quand même un critère très important. Exactement. On vous le rappelle, Soulé et Younes pour vous.
La prolongation sera plus chère. Hein.
Bien, ouais. Alors on va
la première année, c'est toujours l'épreuve.
Exactement.
Nous, on te valorise en disant que t'es la révélation, etc.
Non, on s'en fout.
Voilà, c'est secondaire. Hein,
mais, voilà. Je rigole.
Non, mais nous aussi. Ça va repartir entre la Bosnie et la Suisse dans quelques secondes, Jérôme Sion.
0-0 à la mi-temps, effectivement. Jean-Louis, salut Walid. Salut Jean. On a vu une première période plutôt terne, avec peu d'occasions nettes surtout, quelques tentatives, quelques dribbles intéressants, quelques contre-attaques également piquantes de la part des Bosniens, mais ça reste très insuffisant. Effectivement, c'est pas le meilleur match de cette Coupe du Monde, alors que le stade, lui, est absolument exceptionnel, le SoFi Stadium de Los Angeles. Je suis en train de regarder, a priori, il n'y a pas de remplacement prévu pour le coup d'envoi de la seconde période dans quelques secondes. Sous le sifflet de João Pinheiro, le portugais. On va continuer avec Mbolo et Endoy en attaque côté suisse et Djeko Demirovic côté bosnien.
Par contre, moi sur la première mi-temps, la première mi-temps m'a pas emballé, mais j'aime beaucoup le petit de Salzbourg là, le petit crack qui a démarré là.
Ah oui,
on en a parlé.
Franchement, on en a parlé comme d'une pépite en début de tournoi. Il a pas démarré le premier match et là sur la première mi-temps, à chaque fois qu'il a le ballon, il se passe quelque chose.
Ouais, t'as vu qu'il s'est fait fumer par Djeko parce que justement il a encore un tout petit peu trop individualiste et il a encore du mal à saisir le bon timing de passe pour. Mais c'est sûr qu'il a quelque chose et c'est pas pour rien que Leverkusen va le reprendre à Salzbourg et va activer sa clause de rachat qui a été fixée à 8 millions d'euros. Le coup d'envoi de la seconde période
de la Coupe
tout
du Monde. Il y a eu des trucs à retenir, il s'est passé des choses, donc on peut pas en rester sur cette première période. Jérôme, il va se passer des choses, c'est reparti.
C'est reparti, exactement. Le coup d'envoi de la seconde période entre la Suisse et la Bosnie, 0-0 à la mi-temps si vous nous rejoignez sur RMC. Et le coup d'envoi donné par les Suisses qui sont en rouge, les Bosniens sont en blanc aujourd'hui. Et c'est reparti avec un ballon tout de suite pour Manuel Akanji et pour le gardien Gregor Kobel. 0-0 et donc ça vient de repartir entre Suisse et Bosniens.
Alors Jérôme, on te suit évidemment, t'interviens quand tu veux, mais dans l'heure qui vient, on a pas mal de bons sujets avec vous trois. On vous attend d'ailleurs au 32-16 sur tout ça. Est-ce que le continent africain sera le grand gagnant de cette Coupe du Monde? Ça se présente bien, il y a pas mal d'équipes qui ont réussi de très bons résultats. On en a dit un mot tout à l'heure, mais on ira dans le détail. Et on sera notamment avec les Marocains, Nicolas Pelletier est avec eux avant leur deuxième match. Est-ce qu'il faut mettre Ronaldo sur le banc? Bon, on a déjà un peu anticipé le débat avec Christophe Dugarry tout à l'heure, mais on insisterait, on verra comment au Portugal on réagit à ce débat. Ah oui, vous rigolez parce qu'on a essayé tout le monde sur Portugal tout à l'heure. Effectivement, vous pourrez aller réécouter ça en podcast. Les Bleus, tout de suite, on retrouve Valentin Jamin, là, nos envoyés spéciaux à Boston. Rebonsoir Valentin.
Salut à toutes et à tous. Salut Walid.
Alors, profitons de ta présence. Je le répète à chaque fois, mais toi, tu étais vraiment sur la pelouse pour le premier match face au Sénégal. Et donc, tu as pu te rendre compte de près à quel point le duo Upamecano-Saliba a été énorme.
Oui, c'est ça, notamment Upamecano. Si je dois ressortir un sur les deux, je pense que vous serez d'accord, Upamecano a été vraiment énorme dans tous les secteurs, hein, au duel où il a vraiment bougé à l'épaule les attaquants sénégalais, à la couverture aussi. J'ai souvenir de Nicolas Jackson qui déborde à gauche et Upamecano qui revient, et là il y a eu les points serrés, l'accolade avec Mike Maignan, c'était juste devant moi, c'est impressionnant. Donc Upamecano a été très très bon, propre à la relance aussi, tout comme William Saliba. C'est peut-être un des gros points forts aussi de William Saliba, la qualité de relance, et il a également été là dans les interventions, puisqu'il fait un très gros tacle dans la surface, un retour pour le coup sur l'autre côté de l'attaque. Donc les deux ont été fiables. J'ai pas en mémoire d'erreur, même s'il y a une passe en retrait, je crois, qui est un petit peu imprécise à un moment, mais c'est quand même dans cette défense où on remet parfois en question les latéraux, l'assurance un peu tout risque d'ailleurs, et ça trompe pas, c'est la première fois que Didier Deschamps enchaîne deux compétitions avec la même charnière centrale. C'était jamais arrivé depuis le début de son mandat. 17 matchs les deux, 3 défaites seulement, 10 clean sheets. Donc on est vraiment peut-être sur ce qui se fait de plus allez, solide en Europe, voire au monde. Dayot Upamecano et Saliba. Et en plus, il y a une vraie complémentarité entre les deux. La petite question, c'est le physique de Saliba, hein, qui donc a été un petit peu gêné au dos, qui avait déjà raté mars la tournée aux États-Unis, blessé à la cheville. Septembre 2025, aussi blessé à la cheville. Mais ils ont de l'avance sur Konaté et Lacroix. Et vu le premier match, ça ne devrait pas changer, même si contre l'Irak, on verra, oui, il y aura peut-être un ou deux changements, voire trois. Donc peut-être que Saliba, par exemple, peut souffler. C'est pas une info, c'est ce qui pourrait se passer. Mais sur les gros matchs, ils seront là tous les deux.
Merci Valentin. Alors on va se tourner vers le plus défenseur de vous trois. Ce n'est pas Walid, ce n'est pas Younes.
Non.
C'est Soulé. Soulé, est-ce que selon toi, c'est pas ça l'atout majeur de l'équipe de France, cette défense centrale? On parle des quatre attaquants, d'Olysée, de Mbappé, mais finalement, est-ce que c'est pas ça qui va nous faire gagner la Coupe du Monde?
Upamecano, Saliba, pour moi c'est une charnière en or, c'est la meilleure pour moi, hein, de def centrale de cette compétition, parce que sa ligne vitesse, puissance, relance, voilà, même si pour moi on ne juge pas une défense
juste sur ces deux joueurs là,
juste sur ces deux joueurs là, mais ouais, voilà, mais moi en tant que ancien défenseur, je trouve ce duo, mais vraiment, ouais, ils sont connectés. Et ce que j'ai remarqué sur ce match, parce que je regardais beaucoup un peu cette défense-là, parce que on en parlait, je crois, avant-hier avec Walid en plus.
Ouais.
Ils sont toujours en permanence en train de se regarder, de discuter. Et beaucoup discuter entre.
Et ça c'est un truc important entre défenseurs centraux.
Mais bien sûr, ça c'est, ah ouais, c'est, t'es obligé, parce que t'es obligé de savoir si je te dis au hasard, Upamecano doit sortir, Saliba doit venir couvrir. Il y a plein de choses, donc c'est important de se regarder et de communiquer surtout. Donc pour moi, cette charnière là, je vais pas dire amoureux, mais je la kiffe.
Tu peux y aller, même si c'était contre le Sénégal, tu peux y aller sous les.
Ouais, c'est pour
problème.
Ça que j'osais pas dire ça, tu vois.
Younes, toi aussi, t'as bluffé. Après, on les a vus. Upamecano, il était énorme avec le Paris Saint-Germain, Saliba aussi, mais comme ça,
j'avais un doute avec Saliba, avec son problème de dos après la Ligue des Champions. Je me disais peut-être il allait pas être à 100%, ça va être un avantage pour le Sénégal, mais bon, il nous a prouvé le contraire, qu'il était vraiment opérationnel pour cette compétition.
Ouais, Younes.
Ah oui. Ouais, ils m'ont impressionné par la qualité physique, athlétique qu'ils ont démontré. Parce que tu sais que le football africain, c'est très compliqué.
Ouais.
C'est très physique. On l'a vu Hernandez être en très grande difficulté sur son côté avec les joueurs sénégalais, que ce soit dans le physique, dans l'impact physique. Et Upamecano et Saliba, plus Upamecano, où physiquement, il a démontré que, il était encore plus physique que les sénégalais. Il les a bougés dans tous les compartiments, que ce soit par la vitesse, par l'impact, par le pressing, quand il monte sur eux, franchement, il m'a régalé au Upamecano. Saliba un peu moins parce qu'il a eu moins de situations, mais sur ce qu'il a fait, ça a été très cohérent.
Ouais.
Mais au Upamecano, physiquement, il m'a impressionné dans la vitesse, dans l'anticipation, dans ce qu'il voit derrière, parce que dans la couverture, ouais, c'est vrai,
Walid, c'est quand il y a un duel qui a Upamecano dans l'histoire, bon, t'es assez serein en fait.
Attends, moi, les duels et tout.
Dans la gestion de la profondeur, il y a pas meilleur aujourd'hui, moi, en Europe. De toute façon, on sait très très bien que les deux, il y a qui, il y a Pacho et Gabriel qui peuvent s'asseoir à leur table.
Je le trouve encore au-dessus. Hein.
Non, mais c'est-à-dire que sur la saison.
Mon avis, c'est Pacho ou Upamecano.
Voilà. Pacho, Upamecano, Gabriel, Saliba, c'est un peu les quatre qu'on a ressortis cette année, et on a la chance d'en avoir deux sur les quatre en équipe de France. Donc ouais, moi j'étais franchement, j'avais la chance d'être au stade. Ils ont été impressionnants. Upamecano est un vrai leader de défense dans tout ce qu'il peut générer. Parce que Nicolas Jackson, il a été chiant dans ses déplacements en première mi-temps, mais il a souffert de la comparaison dans les duels. C'est lui qui en première mi-temps et en fin de première mi-temps et en début de deuxième mi-temps qui a initié aussi des relances très intéressantes. Il y en a une notamment pour l'occasion de Doué où ça démarre de lui. C'est un défenseur qui est moderne. Et moi, je me rappelle du Upamecano qui avait démarré en équipe de France contre la Croatie, contre l'Ukraine, où il s'était complètement vautré. Là, aujourd'hui, on n'est pas du tout sur le même joueur, sur le même défenseur. Donc, c'est la force. C'est l'une des forces.
Tu lui laisserais ton fils?
Ah non, moi, je l'ai déjà dit, mais Upamecano, c'est le plus grand babysitter. Moi, demain, mon enfant a besoin d'être sécurisé. Je lui envoie Upamecano. Je lui mets les clés de voiture, je lui mets tout. C'est qu'aujourd'hui, j'ai confiance en Upamecano. La même chose pour Saliba. Après, j'ai un peu moins confiance sur les latéraux et on l'a vu sur le match.
C'est ça le problème. Une fois qu'on a fait tous ces compliments à la défense centrale, est-ce que vous diriez que c'est plus important encore que notre attaque d'avoir ces joueurs-là?
C'était la force de l'équipe de France à l'Euro 2024, mais il y avait eu un Jules Koundé qui était très très différent dans les performances. Mais oui, on parle beaucoup de la France des quatre attaquants. Il va falloir quand même être très solide aussi derrière.
En plus, Walid, encore une fois, pour te rejoindre, pour gagner une compétition, il faut avoir une grosse défense et un grand gardien.
Bon, Mac Maignan, moi, il m'a pas rassuré sur le match. Donc,
toutes les qualités de Mac Maignan. Vous allez voir, là, c'est le début de la compétition.
Bien sûr.
Là, c'est juste le début, c'est sur un match.
Il a la qualité, même si, moi, je répète que sur le match, il doit faire beaucoup mieux. Mais...
Alors, je rappelle, Christophe Loluchon nous a dit que sur le but, il n'était pas fautif parce qu'il y avait une histoire de trajectoire, etc.
Ah ouais.
Alors, en revanche, le jeu au pied, ça, c'est peut-être un peu plus préoccupant.
Après, c'est Christophe le spécialiste. Donc, moi.
Bah, voilà, on s'est incliné.
Mais après, moi, il doit faire quand même beaucoup mieux. Mais après voilà les latéraux et le gardien, heureusement qu'on a ces deux tours jumelles qui vont faire beaucoup de bien à cette équipe de France.
Surtout Walid, quand tu veux mettre quatre offensifs, il va te falloir des mecs derrière qui tiennent la baraque, qui savent couvrir, qui savent en profondeur faire les sprints, parce qu'ils vont en avoir pas mal, parce que des fois tu as les attaquants qui vont te lâcher un petit peu, ils vont vouloir marquer, ils vont pas faire le repli défensif. Donc derrière, il va falloir être très solide, et sur ce qu'ils ont démontré face à une équipe du Sénégal, qu'ils ont pris la profondeur et qu'ils allaient très très vite en transition.
Sur la première mi-temps, moi j'ai eu très peur sur certaines transitions.
Et en fait,
dès que t'as Upamecano qui ferme la porte, t'es serein, quoi. C'est pas du tout la même chose, quoi. Tu peux jouer même. En plus, ce métier-là de défenseur, moi je vais pas l'apprendre à saouler, mais jouer à 40 mètres de son but comme ça et jouer cul par terre dans la surface de réparation, c'est un métier qui est très très différent. Et avoir cette sérénité pour pouvoir aller chasser et chercher très très haut l'adversaire comme on l'a fait en deuxième mi-temps, c'est une bénédiction pour Didier Deschamps.
C'est peut-être pour ça que Didier Deschamps peut se permettre de jouer avec ce système-là, avec quatre offensifs. Parce qu'il sait que derrière, il y a la garde républicaine, tu vois.
Le seul petit bémol, c'est qu'on sait que ces deux joueurs-là peuvent avoir quelques sauts de concentration.
Upamecano, de moins en moins.
Non, mais ces deux joueurs qui étaient comme ça sur les dernières années, qui ont beaucoup progressé. Il y en a beaucoup moins. Mais vu qu'il y a un jeu à risque et qu'il y a beaucoup de mètres à parcourir, parfois sur un. En fait, ça te pousse à.
Oh, excuse-moi, Walid. On va aller sur Suisse-Bosnie parce qu'on. Je crois que c'est chaud. Jérôme Sillon.
Ouais, avec un retourné acrobatique exceptionnel de Dan Endoy. Wow. Superbe occasion pour la Nati. Wow. Ça pousse. Et Dan Endoy, il est dans tous les bons coups. Centre de la droite, magnifique. Du pied gauche de Granit Xhaka, le capitaine, et au niveau des 5m50. Le retourné acrobatique exceptionnel de Dan Endoy. Et la claquette de Nikolaï Vassil. C'est dommage presque qu'il l'ait enlevé ce ballon, parce que ça méritait d'aller au fond tellement c'était beau. 0-0, 55 minutes de jeu,
je crois,
le corner.
Dans les tribunes. Hein.
Ouais, il y avait Pjanic.
Exactement, il est là.
Il aide très bien.
Il y a position d'hors-jeu, j'ai l'impression. Pas de regret, 56 minutes de jeu, 0-0.
Mais ça s'emballe un peu, la Suisse est en train de dominer. On va revenir sur le match dans une seconde. T'avais fini, on est d'accord?
Juste les sauts de concentration qu'il faudra bien évidemment éviter, parce que pendant cette compétition-là, l'adversité va monter en gamme.
On remercie Valentin Jamin à Boston également. Tu nous fais signe,
Valentin. Avec grand plaisir.
S'il y a des infos importantes autour des Bleus, bien sûr. Dans une seconde, on va revenir sur Ronaldo. Est-ce que la clé de tout, c'est pas de le mettre sur le banc? On en parle juste après un nouveau point, donc sur Suisse-Bosnie, Jérôme Sillon.
56 minutes de jeu 0-0 donc au SoFi Stadium de Los Angeles. Et quel geste de Dan Endoy, vraiment ça méritait mieux, même s'il était en position de hors-jeu. On voit que les Suisses tentent d'accélérer un petit peu plus et notamment du mettre de rythme, de la cadence dans leur transmission depuis le retour du vestiaire, avec ce ballon perdu par Ricardo Rodriguez. En revanche, là c'est repris par Tahirovic, et les Bosniens qui vont tenter de se relancer, mais ils reculent avec l'ancien Marseillais Kolasinac qui passe dans le camp suisse sur le côté gauche, tente de servir Karim Alaibegovic, le petit chouchou de Walid, qui perd le ballon, qui envoie un long ballon en direction de Dzeko, mais beaucoup trop long. Voilà, on voit qu'il a quelque chose effectivement, mais il n'a que 19 ans, Karim, 18 ans même, Karim Alaibegovic. Et il a marqué 13 buts cette saison avec le RB Salzbourg. Le dégagement des Suisses avec ce ballon. Attention là, cette relance plein axe. Freuler qui s'en sort, mais le pressing bosnien est payant. Il est récupéré ce ballon par Tahirovic. La remise de Dzeko contrée par Niko Elvedi. La tête de Kolasinac. Et est-ce que ce ballon va sortir? Non, il est sauvé, ce ballon, sur le côté gauche par Memić Kolasinac qui va reculer et repasser par sa défense centrale avec Moiremović. 58e à Los Angeles. Toujours 0-0 entre la Suisse et la Bosnie. Et pour l'instant, ça permettrait au vainqueur de Canada-Qatar de faire une sacrée belle opération si le score en reste là à Los Angeles.
Ah oui, bah ce serait la qualif pour le vainqueur après deux journées.